Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On l'a appris hier, Keolis, une filiale de la SNCF a décroché le contrat de gestion des bus de Las Vegas. Et le fait que la nouvelle ait été médiatisée donne une idée de l'importance symbolique de la capitale du Nevada. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 son incroyable histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet revivre un siècle de jeux et de plaisirs, mais aussi de vices et de crimes à travers le destin de la fabuleuse Las Vegas. Une occasion aussi de raconter l'histoire des casinos et des jeux d'argent qui n'ont pas attendu, il faut le dire, les Américains pour se développer dans le monde.
Et vous avez invité trois familiers de Las Vegas.
Et oui, Sébastien Frémont parcourt les États-Unis en général et Las Vegas en particulier avec son appareil photo. Il a travaillé notamment en collaboration avec la police de Las Vegas, il va nous raconter ça. François Montmirel est le directeur scientifique de l'école française de poker. Quant à mon ami Alex Good, que connaissent bien les téléspectateurs, c'est lui qui m'a fait découvrir Las Vegas, dont il est depuis longtemps amoureux. Vous allez voir qu'il parle de cette ville avec des trémolos dans la voix.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Welcome to fabulous Las Vegas, clame une enseigne lumineuse blanche en forme de losange, située au sud de la ville, au milieu de cette avenue d'écrans géants et de néons qu'on appelle le Strip. Bienvenue à Las Vegas, la fabuleuse. Entre enfer du jeu et paradis du show, cette cité de tous les records, de tous les excès, de tous les possibles, cette agglomération aux 250 hôtels géants, poussée comme un drôle de cactus lumineux en plein milieu du désert, non loin de la Sierra Nevada et à quelques encablures du Grand Canyon du Colorado, cette ville a fait rêver et continue, bon an mal an, de faire rêver la planète entière. Pour peu que les plaisirs plus ou moins faciles, plus ou moins licites vous attirent, pour peu que vous ayez gardé une capacité d'émerveillement propre à vous esbaudir devant la plus grosse pépite du monde, le plus haut jet d'eau du monde, la plus grande piscine du monde, la plus vaste scène du monde, vous êtes allé ou vous irez un jour à Las Vegas. De tous les endroits que je connais ou dont je connais l'histoire, disons, celui-ci est sans aucun doute le plus gâté par le sort. C'est logique, quand on parle de Las Vegas, tout est toujours le plus. C'est la capitale incontestée du superlatif. Singulier destin tout de même que celui de cette petite oasis en plein désert, née par la grâce de ses sources providentielles, qui d'abord a été un hameau fondé par des mormons, et presque aussitôt d'ailleurs abandonné par les mêmes mormons, repris par l'armée américaine qui s'empresse d'y installer un fort de relais, désenclavé par la suite par le chemin de fer évidemment, est devenu officiellement un village en 1905, et puis une ville, toute petite ville encore, en 1911 seulement. 1911, il y a à peine plus d'un siècle, c'était hier. Le destin de Las Vegas. Las Vegas en espagnol, ça veut dire les prairies. Ce destin bascule avec la construction du barrage Hoover à 50 km au sud à partir de 1931. Une immense population de travailleurs se retrouve d'un seul coup parachutée sur ce coin perdu de désert. Or, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'endroit du chantier à Boulder City, les jeux d'argent sont interdits. Et comme par hasard, en 1931, justement, Las Vegas, après 21 ans d'interdiction, décide d'autoriser les casinos. Nous allons reparler de tout ça dans le détail, évidemment, dans un instant. Vous comprenez sans peine ce qui a pu se passer. L'afflux depuis le chantier du barrage de toute une foule de clients quasi captifs dans les premiers établissements de jeu, qui sont en même temps des hôtels et forcément des lieux de prostitution. Il faudra attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que certains génies des affaires, qui disons-le sont en même temps de grandes figures du milieu et de la mafia, Bugsy Siegel, Meyer Lansky, etc., transforment la bonne affaire en gisement de dollars, la cité des loisirs inavouables en empire du jeu et des plaisirs. C'est le début de ces salles gigantesques, vous savez, ces salles qui alignent à perte de vue des rangées rutilantes, clignotantes de machines à sous. Et cela, ce n'était encore qu'une étape. Survient ensuite, dans les années 50 et 60, une pluie, que dis-je une pluie, une mousson savamment orchestrée de stars internationales du showbiz et la construction d'hôtels casinos de plus en plus grands, de plus en plus hauts, de plus en plus surprenants et autonomes. Tout ça le long du fameux strip. Les prairies deviennent l'oasis mondiale des joueurs et des jouisseurs, des millionnaires et des candidats à la fortune, des grands enfants en mal d'émotions fortes. Sin City, la cité du péché, devient en quelques décennies the entertainment capital of the world, la capitale mondiale du divertissement. Le nouveau Ziegler est arrivé, il se nomme Steve Wynn. Nouveau virage avec la crise il y a quelques années seulement. Alors là, les Végasiens vont devoir s'adapter aux temps plus difficiles et miser davantage sur les spectacles, sur les centres d'intérêts familiaux. D'ici à ce que Vegas, comme l'appellent ses habitants, devienne un jour la cité des vertus, il n'y a qu'un pas à franchir. Je vous rassure, c'est un très très grand pas quand même. Le plus grand pas du monde, normal, on est à Vegas.
Like the wallpaper sticks to the wall, and like the seashore clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow, you'll never get rid of me. Let all the others fight and fuss.
Me and My Shadow sur Europe 1, interprété par The Rat Pack, composé entre autres par Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., qui ont fait les belles heures de Las Vegas, la ville de tous les péchés. On en parle dans un court instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
C'est une musique composée par Quincy Jones sur Europe 1, extrait de la BO d'Ocean's Eleven, un film de Soderbergh avec notamment Brad Pitt, George Clooney, enfin des gens qui font.
Et les fontaines du Bellagio, qui sont peut-être la principale star du film.
On vous retrouve avec vos invités pour parler de Las Vegas. Franck.
Oui, alors mes premiers invités. Bonjour François Montmirel, vous êtes directeur scientifique de l'école française de poker. Et bonjour Alex Good, on vous présente
bonjour,
pas.
Bonjour.
Vous êtes un peu, on peut dire, un citoyen de Vegas. Vous y passez beaucoup de temps.
J'y passe beaucoup de temps. Et ma famille vit depuis 40 ans. En fait, ma tante a épousé un Américain qui était dans l'armée américaine. Et donc, du coup, ils sont allés vers Nellis Air Force, vers la base 51 qui est là-bas. Et donc, ils
la base 51, il faut expliquer en deux mots de quoi il s'agit.
Ah, bah, c'est là où il y aurait peut-être des extraterrestres.
Et voilà, c'est ça. Hein.
Voilà,
on n'est pas loin de Roswell. Là.
En plein cœur du désert, voilà, avec les extraterrestres de Roswell. Et donc j'y vais depuis que je suis tout petit. Et voilà, et je suis très souvent là-bas. En ce moment, je prépare un spectacle de magie pour l'année prochaine à Vegas avec Sophie Edelstein, ma collègue de la France, un incroyable talent.
Donc en plus, vous connaissez un peu, si je puis dire, les coulisses de toutes ces extraordinaires machineries de spectacles sur lesquelles on va revenir longuement. Parce que ce que les Français, et je dis ça pour nos auditeurs qui se diraient, mais pourquoi Vegas? Ce que les Français ne savent pas ou savent mal, c'est que Las Vegas n'est pas seulement l'empire du jeu, avec maintenant d'autres villes, hein, comme Macao par exemple, qui lui font un peu d'ombre. Las Vegas n'est pas seulement consacré aux machines à sous et aux casinos, il y a aussi, et presque on pourrait dire maintenant surtout, de grandes salles de spectacle qui présentent honnêtement les plus fabuleux spectacles du monde, hein, notamment tous les grands spectacles du Cirque du Soleil.
Ah oui, il y en a 7 en permanence, il y a le Michael Jackson qui va ouvrir au mois d'avril, là encore, qui est en travail depuis un an et qui va être incroyable. C'est vrai que c'est des budgets qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde, puisque les spectacles s'installent pour 10 ans, 15 ans parfois, donc ils refont entièrement la salle, c'est des moyens qui n'existe pas ni à Broadway, ni à Londres,
ça,
ni surtout à Paris.
Complètement démesuré, en fait.
Exactement.
Et les salles de spectacle sont elles-mêmes, j'ai découvert ça grâce à vous, Alex, les salles de spectacle sont elles-mêmes construites pour les spectacles. C'est-à-dire qu'on dessine la salle en fonction de la mise en scène. C'est complètement extraordinaire. Ce qu'il faut dire, c'est que les spectacles durent 10, 12, 15 ans. Alors
exactement.
Évidemment, ça permet d'amortir. Alors François Montmirel, depuis quand est-ce qu'il y a des Européens, parce qu'il y avait des Indiens, évidemment, dans ce désert du sud de la Sierra Nevada, mais depuis quand est-ce qu'il y a des Européens dans cette région?
La première arrivée, c'est 1829,
oui.
Espagnol. Ils sont installés sur place, mais bon, comme vous l'aviez rappelé d'ailleurs en début d'émission.
Ce qui veut dire que ça faisait déjà longtemps que les 13 colonies devenues États-Unis existaient là-bas sur la côte Est, au moment où arrivent enfin des Européens dans cette région.
Ouais.
Pas bien accueillis par les Indiens locaux, hein, bien sûr.
C'est parti des guerres indiennes, effectivement,
ah oui.
Oui, tout à fait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les militaires ont pris les choses en main. après, oui. Voilà, après les Mormons.
Parce que les Mormons, en fait, débarquent là en 1855. Oui. Et puis, ils se disent, non, vraiment. Alors, c'est vrai qu'il y a des sources. Et qui dit source dit un peu de verdure, donc des prairies, d'où le nom, hein, Las Vegas. Mais enfin, c'est pas suffisant pour alimenter vraiment une ville. Les Mormons renoncent. Et c'est les militaires qui prennent le relais. Parce qu'eux se disent que c'est important d'avoir ce poste avancé, en quelque sorte. Hein.
Ben, c'est la route entre Los Angeles et Salt Lake City, ou Denver.
Exactement, c'est ça.
Et donc, c'est effectivement un lieu de passage, déjà, à l'époque.
Alors, il y a eu la ruée vers l'or, entre-temps, quand même, il faut
1849.
Pas l'oublier. Et donc, tous ces gens qui arrivent, parce qu'il y a de l'or un peu dans la région. Hein.
Oui, un petit peu autour. Bah, Las Vegas, comme vous le disiez, c'est une plaine, et donc il y a quelques collines tout autour, et dans les collines, il y a quelques mines, effectivement.
Ouais. Les véritables mines d'or, évidemment, de Las Vegas, elles sont ailleurs aujourd'hui, on va y venir dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Précisément cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire de Las Vegas, nous sommes toujours en compagnie d'Alex Good, de François Montmirel, et nous a rejoint Sébastien Frémont, qui est spécialiste des États-Unis. Ils seront
Bonjour, Sébastien Frémont. Régulièrement à Las Vegas, passionné
de photographie. Il rapporte depuis plus de 20 ans des dizaines de milliers de photos au fil de ses séjours là-bas, Franck.
Oui, ça fait des très beaux livres, hein, des beaux albums. C'est vous qui l'avez d'ailleurs, Julia,
oui.
Vous me l'avez piqué,
sous
le livre.
Fiches, mais... Oui, je voulais le garder pour l'emporter à la maison.
Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que pendant longtemps, Las Vegas est exactement soumis au même régime que les autres villes de tout cet état du Nevada, c'est-à-dire interdiction totale du jeu. À partir de 1910, c'est la chape de plomb qui s'abat, François Montmirel.
Oui, c'est ça, oui. L'autorisation du jeu, c'est 1879, voilà. Parce qu'en fait, on jouait déjà beaucoup, mais c'était interdit. Mm-hmm. Donc 1879, on décide d'autoriser.
Ce qui était clandestin devient officiel.
Exactement. 1910, on arrête d'un seul coup, alors que la ville vient juste d'être créée officiellement.
Mais pourquoi est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on connaît les causes de cette prohibition du jeu ?
Et paraît-il, ça serait des manifestantes, des personnes.
Ouais,
voilà, ça serait les épouses qui n'auraient pas été très d'accord.
Ah, parlons clairement, c'est les ligues de vertu. Il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis, dans une région qui n'est pas la plus rigolote, si je puis dire, en dehors de Las Vegas, Alex Good.
Oui, c'est pas toujours. Non, les lois sont très très sérieuses et tout ça, mais après, ils ont continué quand même à faire du jeu en clandestin. Quoi. C'était des trucs avec des mots de passe, il fallait rentrer dans des cercles très privés jusqu'à ce que ça se redémocratise de nouveau. Mais
et
c'est
alors,
vrai qu'il fallait faire attention.
Ça se redémocratise comme par hasard en 1931. Je dis comme par hasard parce que c'est exactement le moment où, à quelques dizaines de kilomètres de là, au sud-sud-est, s'ouvre le grand chantier du barrage qu'on va appeler le barrage Hoover, du nom du président qui l'a lancé, président républicain. On est juste après la crise de 1929. Il faut trouver de l'activité, il faut relancer la croissance. Hoover le fera modestement, évidemment. Roosevelt, lui, ira beaucoup plus loin hein, dans cette histoire. Et donc, on ouvre ce grand chantier du barrage qui va créer le plus grand lac artificiel des États-Unis. Et évidemment, ce sont des dizaines de milliers d'ouvriers, d'ingénieurs, tout ce monde-là qui débarque dans le désert. Et là, à Las Vegas, on se dit, il y a bon, en quelque sorte, ce serait peut-être le moment de rouvrir officiellement les maisons de jeu. Et donc, il va y avoir de nouveau une autorisation du jeu, 1931.
Et c'est reparti, mon kiki.
Oui. Ouais. Oui, alors avec un engagement officiel qui est on ne prend que les licences claires, nettes, les jeux
évidemment.
Sont particuliers. Et alors ce qui est amusant, c'est que tous les jeux sont autorisés sauf les loteries. Et dans les autres pays, c'est l'inverse. On n'autorise que les loteries, comme en France, la loterie nationale.
Oui, voilà. c'est curieux. Ça. Et pourquoi est-ce qu'on interdit les loteries alors,
je n'ai aucune information là-dessus.
Mais alors, ça doit être encore un effet des ligues de vertu, probablement.
Oui.
Alors, peu à peu, dans les années 30, il faut bien dire que les cercles de jeu restent relativement modestes. Même s'il y a quand même les premiers casinos au sens propre, mais qui restent de taille assez modeste. Oui. Et puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors là, débarquent les grands méchants loups, si je puis dire.
On est fiers.
Eh oui, à commencer par, évidemment, le plus célèbre, Bugsy Siegel, hein, qui est un peu on peut dire, c'est l'homme qui a créé le Las Vegas moderne.
Bah, c'est lui qui a fait le Flamingo, en tout cas.
C'est
donc,
ça, hein.
À partir de
faut
là.
Faut expliquer ce qu'est le Flamingo.
Le Flamingo, c'était le premier gros casino du Strip. Bon, il n'est pas resté longtemps.
Le Strip, c'est l'avenue centrale. Hein.
Le Strip est la grande avenue. Ouais. Maintenant, il y a le Fremont Street, qui n'a rien à voir avec Sébastien, qui est l'ancien casino. Là, on trouve le Golden Nugget et tous ces vieux casinos. Et puis, ce Strip qui a été lancé, justement, par Bugsy Siegel, avec le Flamingo, où il n'est pas resté lui très longtemps, puisque ça a vite refermé.
Ça, c'est très important pour la géographie, pour la topographie locale, puisque, en fait, jusqu'ici, les casinos, comme tout le reste, d'ailleurs, se trouvaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le downtown, c'est-à-dire on est au nord de la ville. Et puis, pour une raison assez mystérieuse, mais peut-être parce qu'il se méfiait d'un certain nombre de ses chers confrères qui étaient un peu au nord.
L'histoire lui donne raison. Hein,
oui,
dit.
Bugsy Siegel ouvre son Flamingo très au sud. Et finalement, toute l'histoire de Las Vegas, c'est l'histoire du comblement immobilier entre le Flamingo et le Downtown. Finalement, on va créer autour de cet axe tous les grands hôtels casinos, parce que ça, c'est la spécialité des lieux. Ce ne sont ni des hôtels ni des casinos, c'est un mix des deux. Oui, c'est assez extraordinaire, Sébastien Frémont.
Paradoxalement, ce fameux strip ne se trouve pas d'ailleurs sur la ville de Las Vegas en elle-même, mais sur les terres du comté de Clark.
Voilà.
Pour sa partie, en tout cas, la plus touristique au sud.
C'est-à-dire qu'en fait, une partie de ce qu'on appelle Las Vegas n'est pas dans Las Vegas.
Absolument.
C'est voilà, ça. Maintenant, on englobe l'agglomération. Quoi,
voilà, la vallée compte environ 2 millions d'habitants, mais sur la ville de Las Vegas en elle-même, c'est un petit peu moins de 600 000 habitants. Et encore une fois, en réalité, le strip et sa partie la plus touristique se trouvent sur le comté de Clark, sur les terres du comté, qui ne sont pas érigées en tant que ville.
Alors, disons-le clairement, dans ces années 47, 50, 55, c'est la mafia qui s'installe à Las Vegas. Pour être plus exact, qui s'y réinstalle, Sébastien Frémont.
Alors, a priori, en fait, c'est suite à une désaffection de Cuba, en réalité, oui. Qui drainait des capitaux plus ou moins douteux, qui ont fait que la mafia semble s'être reportée sur l'Ouest américain et sur Las Vegas en particulier.
Après la vente de Castro. Ouais.
Absolument. Dès 1956, en réalité, avec, comme vous venez de le dire, Alex, l'ouverture du Flamingo et Bugsy Siegel qui établit son quartier général finalement.
Alors, avec, il ne faut pas oublier que l'aéroport est très au sud. Hein, donc tout ça, évidemment...
Bah maintenant, c'est complet. Alors, maintenant, il n'y a même plus d'espace. Le premier casino est juste à côté de l'aéroport, le Mandalay Bay, est vraiment en face de l'aéroport.
J'irais même jusqu'à dire que le premier casino, il est dans l'aéroport lui-même, parce que c'est quand même la seule ville au monde où j'ai jamais vu dans les salles d'attente et dans les salles d'embarquement énormément de machines à sous.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Oh, I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Elvis sur Europe 1 avec Viva Las Vegas.
C'est tous ces jeux. Alors c'est intéressant parce que tous ces jeux, ils ont évolué, bien entendu. François Montmirel, au départ, d'abord les machines à sous elles-mêmes, elles sont très anciennes. Au départ, elles n'avaient pas du tout l'allure qu'elles ont aujourd'hui, évidemment.
Non, effectivement, les premières datent d'à peu près 1895 et elles étaient de face, c'est-à-dire qu'elles se présentaient un petit peu comme une roue de loterie.
Classique, oui.
Absolument. Ce n'est qu'après, vers 1905-1910, qu'on a commencé à voir les rouleaux arriver.
Voilà,
oui, tout à fait. Et puis les bandits manchots, c'est-à-dire qu'il y a un levier, et ils avaient la forme d'un cow-boy qui avait le bras en l'air, avec son pistolet, et on abaissait...
Le bras du cow-boy.
Voilà, il n'avait qu'un bras.
Donc c'était assez sportif, finalement. Ça existe encore, de toutes les machines à sous ont encore leur levier, mais les 9 dixièmes des utilisateurs, aujourd'hui, appuient sur le bouton, ça fait évidemment
maintenant, les plus modernes, il n'y a même plus de levier.
Il n'y a même plus du tout de levier.
C'est les boutons, les écrans tactiles, on est en 2013,
ils sont directement sur l'écran.
C'est devenu un jeu vidéo, maintenant.
Et alors, est-ce qu'on connaît l'origine des petites icônes qu'on voit sur les fameux rouleaux de la machine à sous? Pourquoi les cerises, par exemple?
C'est des fruits parce qu'il fallait quelque chose de symbolique, de
l'abondance,
simple.
Quoi.
Voilà, oui, c'est ça, tout à fait.
Des symboles, finalement.
Oui, des étoiles.
Et puis alors, petit à petit, les petites icônes en question sont devenues publicitaires. Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on est dans une espèce de temple mondial de la consommation, de la marque. On est vraiment, il y a cette espèce de surabondance de publicité,
là,
Alex.
Pour le shopping, c'est incroyable. Je crois que c'est une des villes où il y a le plus de boutiques Louis Vuitton. Ça va du grand luxe à l'hyper accessible, avec des malls partout, chaque casino à ses galeries commerciales, quasiment. C'est effectivement devenu le pays et la ville de la folie consommatrice. Quoi. Pour la nourriture, pour les spectacles, pour les vêtements, pour tous les plaisirs. En fait.
Depuis quelques années, Las Vegas est redevenue la capitale du poker. C'est d'ailleurs en partie ce qui a relancé la ville. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le poker est arrivé tard, en vérité.
Oui, tout à fait, à la fin des années 60. Auparavant, on jouait aussi au poker à Las Vegas, mais c'était dans les arrières-salles, comme partout, j'allais dire, entre guillemets. Et c'est vraiment à la fin des années 60 que le poker s'est installé officiellement dans les casinos. Alors, c'était pas des parties très sûres, comme le raconte d'ailleurs très bien Doyle Brunson, qui est le parrains du poker actuel. Ils faisaient attention aux parties. Enfin, ils étaient triés sur le volet. Il fallait vraiment faire attention parce qu'on se faisait vite arnaquer. Et puis, très vite, le poker s'est installé et est devenu un jeu très important à Las Vegas, notamment grâce à Benny Binion, qui a décidé de créer une sorte de championnat du monde qui s'appelle les WSOP, qui existe encore aujourd'hui, qui sont les World Series of Poker, qui ont lieu chaque année au mois de juin-juillet et qui attirent en moyenne entre 50 et 60 000 joueurs.
Alors évidemment, quand on se promène dans tous ces rez-de-chaussée d'hôtels, qui sont d'immenses casinos, ce qu'on voit surtout, ce sont les machines à sous. Mais il y a des tables quand même, beaucoup de tables avec des paris sur les cartes quand même. Quels sont les jeux auxquels on joue le plus régulièrement, Sébastien Frémont?
Alors on joue beaucoup au blackjack. Mm-hmm. Alors je ne suis pas un grand spécialiste.
Ce qu'on voit dans les films d'ailleurs beaucoup.
Bien sûr, je ne suis pas un grand spécialiste du jeu paradoxalement, alors même que je vais à Vegas très très souvent. Mais en ce qui me concerne, je joue un petit peu au blackjack parce qu'on a le sentiment de forcer un peu la chance finalement. Et quand on a un petit peu de technique vis-à-vis de ce jeu, on se dit que tout n'est pas dicté que par la chance.
Ouais, y a le craps aussi où les gens sont comme des fous. C'est vraiment le jeu, il y a le plus d'ambiance. Quoi. Ah, c'est le craps quand on voit les Américains autour de la table qui...
Le craps, ça se joue au dé. Hein.
C'est les dés, ouais. C'est les dés, c'est un jeu de hasard au dé, mais ça engendre des comportements assez hystériques. Et puis la roulette, bien sûr.
Alors de temps en temps, on passe devant des espèces de grandes salles qui sont des salles de paris sportifs. Ça, on ne voit pas ça du tout dans les casinos en Europe. De quoi s'agit-il ?
C'est comme des salles de spectacle, oui, c'est vrai. Il y a des chaises un petit peu comme dans, enfin des sièges comme dans les cinémas.
Ils sont arrivés à peu près à quelle époque, pour le coup, les paris sportifs?
Dès le départ,
tôt, hein,
oui, parce qu'au début, on pariait sur le baseball, après sur le basketball, les courses de chevaux, bien entendu.
Courses de lévrier.
Un peu plus tard, absolument. Tout sur ce sur quoi on peut parier, mais essentiellement des paris sportifs. Et c'est ouvert, bien sûr, non-stop. Puisqu'on ne l'a pas dit, mais les casinos ne ferment pas à Las Vegas.
Et, oui, voilà.
Et le plus drôle, c'est que vous ne savez jamais quelle heure il est, parce que c'est jamais ouvert sur l'extérieur. Et bien sûr, il n'y a pas d'horloge. Et quand les joueurs commencent un petit peu à être un peu fatigués, on leur injecte un petit peu d'oxygène.
Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des machines à oxygène, carrément.
Non, ouais, c'est ça. Non,
c'est-à-dire qu'ils leur donnent un petit peu à boire pour pas cher.
On a cru longtemps que c'était une rumeur. C'est pas vrai. C'est, justement, ce n'est pas une rumeur. Ça, c'est vraiment utilisé.
Oui. Et puis, par ailleurs,
il y en a quelques-uns.
Dans les commerciaux.
Pour se réveiller un peu.
Donc, il y a les bars tout court. Dans les conduites climatisation. Et puis, bien sûr, on offre aux bons clients, à ceux qui sont aux bonnes tables, on leur offre des consommations, etc. Puis, peu à peu, on peut leur offrir toutes sortes de choses.
Même pas que les bons, même les mauvais aussi, en espérant que du coup, ils viennent. Bon.
Oui. Et surtout qu'ils restent.
Voilà, c'est ça.
Pour les gros joueurs, on fait mieux que ça. On va les chercher dans leur pays d'origine avec des jets privés. On leur offre des suites à des dizaines de milliers de dollars la nuit. Je me suis rendu pour faire mon livre dans une des suites réservées à ce qu'on appelle les baleines, les plus gros joueurs dans le Paris Hotel Casino. Suite pour laquelle, s'il lui fallu que je paye pour cette nuit et faire mes photos, il aurait fallu que je débourse 25 000 dollars pour une seule nuit.
Ah oui. Alors ce poker qui est devenu si important, il n'existait pas dans un premier temps, on l'a bien compris, à Las Vegas. D'où venait-il ce poker à l'origine ?
C'est très ancien. Le poker, c'est un jeu amené en fait par les pionniers qui venaient d'Europe.
C'est les émigrants qui sont venus avec.
Voilà,
en fait,
c'est ça. Alors ça portait pas du tout le nom de poker à l'époque, mais...
Le nom brelan, de
brelan, oui. Bouillotte, absolument.
La bouillotte, oui, voilà, c'est ça.
Qui sont des jeux très proches, le brague anglais également. Mm-hmm. Et puis, tout s'est fait en gers à New Orleans, à la Nouvelle-Orléans. Donc,
on a l'image du film Maverick, où il y a ce championnat de poker à bord d'un bateau à aubes, par exemple.
Absolument, absolument.
Là, on est dans les années 1850, à peu près 60.
Même avant. Puisque les premiers bateaux à aubes ont été lancés par Fulton en 1812. Mm-hmm. 1812, une date qui vous dit quelque chose, Franck Ferrand, parce que ça a été la dernière guerre. Sur les guerres internationales sur le sol des États-Unis entre d'un côté les Américains et les Français ensemble, Lafayette nous voilà, Lafitte en fait à l'époque, les Anglais qui voulaient s'approprier New Orleans, voilà. Et puis bien sûr le poker après à la faveur de ces bateaux à aubes a monté le Mississippi, allé jusqu'à Louisville et s'est répandu comme ça sur les États-Unis.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de très vieux jeux qui sont joués à Las Vegas? Est-ce qu'on a des jeux traditionnels de casino? Je pense à la roulette, tout simplement.
Oui,
quand même,
la roulette à double zéro, qui est très très ancienne. Oui. Il y a un jeu qui a disparu, mais qui a été énormément joué, c'est le Pharaon.
Ah oui.
Oui, le Pharaon. On pariait aussi sur un tapis, un petit peu comme la roulette, mais au lieu d'être des numéros, c'était des cartes
à jouer. Cartes,
Et quelqu'un tirait les cartes à jouer, tout simplement.
Avec des possibilités, pensaient les joueurs, de tricherie supplémentaire. plus important qu'à la roulette. C'est ce qu'on pensait en tout cas.
Je pense qu'ils avaient raison.
Alors, si vous voulez, cette histoire de la roulette, pour faire un peu d'histoire dans cette émission, n'est-ce pas, dont c'est l'objet, cette histoire de la roulette, je vais vous la raconter maintenant.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck sur Europe 1 qui nous relate maintenant l'histoire de la roulette.
Eh oui, parce que même si à Las Vegas, les machines à sous et les paris sur cartes sont littéralement les rois, bien entendu, ils ont envahi tous ces casinos, la reine incontestée, indétrônable des salles de jeu et des casinos du monde entier reste la roulette. C'est elle qui incarne l'univers du jeu d'argent. Vous savez, c'est toujours à une table de roulette que passe James Bond à un moment ou à un autre de l'aventure pour miser négligemment et empocher. Plus négligemment encore. Faites vos jeux, rien ne va plus, neuf noirs, impair et manque. Je me suis donc mis en quête des origines de ce manège de bois verni dans lequel un croupier habile lance sur le cercle de laiton sa bille d'ivoire. En fait, il paraît que la bille aujourd'hui, elle n'est plus du tout en ivoire, elle serait en téflon. Ça fait moins rêver, évidemment. Grâce, alors il y a les amis des bêtes qui vont écrire pour dire attention, Franck Ferrand
est pour le. Non, c'est pas la peine.
Non, c'est pas la peine. Grâce aux écrits pointus de l'historien du jeu Thierry de Police, j'ai pu découvrir que cette roulette, après des balbutiements au XVIIe siècle, apparaissait sous une forme encore inaboutie dans deux maisons de jeu tolérées à Paris sous la Régence, les très aristocratiques hôtels de Gèvres et de Soissons. Très important ces hôtels de Gèvres et de Soissons parce que pour ce qui est de la France en tout cas, il y avait déjà depuis longtemps à Venise, à Gênes, ailleurs, des casinos. Mais pour ce qui est de la France, ce sont les premières vraies salles de jeu. C'est le chroniqueur Ange Goudard. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Ange Goudard, par ailleurs agent secret, escroc notoire. C'est lui qui, dès 1757, raconte les origines de la roulette. Je le cite. « Les hôtels de Gèvres et de Soissons, voilà, il nous le confirme, causèrent une révolution chez les Grecs. » Les Grecs, c'est, à l'époque, c'était les tricheurs. Hein, c'était les gens dont le métier était de gagner leur vie sur des procédés plus ou moins douteux. « La roulette paraissait en être à l'abri, dit-il, le jeu ayant été imaginé pour que le public pût jouer son argent en toute sûreté. Mais un nègre fin, il est bien placé pour en parler, trouva un moyen, il fit faire une roulette où les cases d'une couleur étaient plus grandes que celles de l'autre, de façon que ceux qui étaient du secret, se servant de la balle dont les cases étaient plus grandes, avaient par là un avantage considérable. Les cases étaient blanches et noires, alors elles ne deviendront rouges et noires que nettement plus tard, sous le directoire. Elles étaient blanches et noires, de façon qu'en faisant les cases noires, par exemple, plus grandes que les blanches, nous dit Ange Goudard, il y avait un avantage pour celui qui savait la friponnerie, parce qu'il prenait la balle blanche et passait plus facilement. Historiquement, la première mention connue du terme de roulette est apparue sur un jeton de jeu qui date de 1725. Et si l'on en croit le Mercure de France, il faut toujours en croire le Mercure de France, c'était le canal officiel de l'époque, il semble que le 10 août 1726, je cite, « on a supprimé tous les jeux de roulette qui étaient établis en divers quartiers de Paris et l'on croit que quantité de joueurs de profession que ce jeu a donné lieu de connaître seront éloignés de la capitale. » Que voulez-vous ? Déjà, la lutte des pouvoirs publics contre les trafics et le blanchiment permis par les jeux d'argent, on n'a rien inventé.
Un extrait du Dardanus de Rameau sur Europe 1.
Et oui, c'est ce qu'on jouait à l'époque. Hein. On est donc là au milieu du XVIIIe siècle. Voici ce que dit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dans son tome 14 qui est édité en 1765. Je cite « Roulette ». Entre parenthèses, jeu. C'est un grand cercle divisé en portiques de couleur noire ou blanche et numéroté. La petite boule d'ivoire qu'on jette dans le cercle et qui doit décider du sort des joueurs est poussée par une rigole d'où elle entre dans le jeu et après avoir heurté contre divers rochers, elle va se rendre dans un des portiques noir ou blanc. Vous voyez qu'on y était encore au noir et blanc à l'époque. On gagne quand la boule tombe dans les portiques de la couleur et l'on perd quand c'est le contraire. C'est-à-dire que D'Alembert, d'ailleurs, donc le co-responsable avec Diderot de cette encyclopédie, avait avait réalisé lui-même toute une longue étude sur les probabilités au jeu de roulette. La roulette moderne, celle qu'on connaît, elle apparaît donc au directoire avec ses couleurs rouge et noire, et surtout, ce qui est très important, avec une combinaison à droite de l'ancienne roulette qui n'était que le manège, si vous voulez, et du biribi, le biribi qui était un tapis de mise. Et ça va être fondamental parce qu'à partir de là, les joueurs vont pouvoir miser sur le tapis et vous savez, avec ces grands râteaux, hein, on va leur pousser ou retirer, bien entendu, les jetons qu'ils ont gagnés ou perdus. En 1800-1801, Mortier était à l'époque le grand ennemi de tous les vices et du jeu en particulier, écrivait « Le jeu le plus perfide et conséquemment le plus à la mode est la roulette, où pour commodité du peuple, on joue à 5 sols le jeton, de sorte qu'au moyen de ce qu'on en tire à l'heure, de sorte qu'au moyen de ce que l'on tire à l'heure 100 coups au moins, oui, c'est à peu près ça, c'est-à-dire un peu plus d'un par minute, qui sont tous pour le banquier, en faveur duquel il y a 37 numéros contre 1, le pauvre artisan, de même que le plus fort joueur, est aussitôt allégé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que peu à peu, tous ces jeux vont faire scandale et que sous la monarchie de Juillet bien pensante, en 1837, on ferme les maisons de jeux parisiennes. Et ça, c'est dramatique, évidemment, pour tous les tenanciers, mais ça va faire la fortune de deux Français qui s'expatrient à ce moment-là dans les États allemands, les frères François et Louis Blanc. Et François et Louis Blanc vont créer des jeux, bien entendu. Notamment, ils vont installer la roulette à Bad Homburg pour commencer, et puis plus tard à Baden-Baden, à Wiesbaden et dans un certain nombre de villes d'eau allemandes. Et ce qui est intelligent de leur part, c'est qu'ils améliorent le jeu en supprimant la case double zéro. Il n'y aura plus qu'un seul zéro, un zéro simple. Et cette case qui augmente évidemment, la suppression plutôt de cette case qui augmente l'avantage du joueur, vaut un succès instantané aux frères Blanc. On va avoir beaucoup de monde qui va venir jouer dans les casinos, notamment de Bad Homburg. L'un des joueurs les plus habitués, c'est Dostoïevski. Vous savez que dans Le Joueur, il racontera l'enfer du joueur de roulette, justement, qui se laisse complètement prendre et gagner par sa passion. À partir de 1856, toujours sous la houlette de François Blanc, la roulette va devenir en quelque sorte l'emblème du tout nouveau casino de Monte-Carlo créé par le prince Charles III. N'oubliez pas qu'à l'époque en France, tous ces jeux d'argent sont toujours prohibés, donc évidemment on va où on peut jouer. Ce sont les émigrants d'Europe évidemment qui, comme pour le cas du poker dont on parlait tout à l'heure, vont faire traverser l'Atlantique à la roulette et vont l'implanter aux États-Unis. Bientôt ça devient la passion des aventuriers de la ruée vers l'or. Les Américains vont réinstaurer la case du double zéro, ils vont même créer 37 cases, enfin tous les moyens sont bons pour augmenter les chances du casino contre le joueur, évidemment. Et c'est peut-être ce qui va d'ailleurs contribuer peu à peu avec le temps à rendre ce jeu de moins en moins populaire puisqu'on a de moins en moins de chances d'y gagner. La roulette va être interdite pendant la période de la prohibition, mais nous vous l'avons dit, l'État du Nevada l'autorise à nouveau en 1931. Bah, la suite, là, maintenant, vous la connaissez.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry.
Tom Jones sur Europe 1, it's not unusual, Franck.
Alors, je suis en train de feuilleter le très bel ouvrage de Sébastien Frémont et je vois évidemment, on est complètement replongé dans l'atmosphère de l'actuel Las Vegas. Et vous nous dites, il y a des machines à sous partout, jusque dans les magasins.
Oui, complètement. Oui. Partout où on va, ça commence d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on descend de l'avion, dès l'aéroport, vous trouvez des machines à sous au milieu de l'aéroport. Et puis quand vous allez faire vos courses au centre commercial, qui lui, également, comme les casinos, ne ferme jamais, on y trouve des machines à sous pour le cas échéant.
C'est drôle, si vous arrivez à 3h du matin dans un supermarché, il y a du monde avec des caddies. Voilà, c'est surréaliste. Hein, quand
c'est
même.
Ça, c'est ça. Et des gens également qui jouent aux machines à sous, qui se trouve là derrière la ligne de caisse. Et également, quand on fait le plein de sa voiture en carburant, on va trouver quelques machines à sous
entre deux pompes, il ne faut pas se tromper. Voilà. Mais tout ça est assez stupéfiant. Et en même temps, évidemment, il ne faudrait pas garder de Las Vegas cette image exclusivement consacrée au jeu Alex Good. Il y a aussi quand même bien d'autres choses, à commencer par tous ces grands spectacles. Alors, ça a commencé à peu près à quel moment tout ça?
Oh, il y a longtemps, le spectacle, ça a commencé il y a une quinzaine d'années, 20 ans à peu près. Ils ont commencé à venir... même
en 89 quand tu as le Mirage. Il y en avait déjà avant. Il y a un chanteur, Wayne Newton, qui a chanté pendant je ne sais plus combien de milliers de représentations. Mais c'est vrai que les gros spectacles, les gros shows, Cirque du Soleil, La Magie avec Siegfried and Roy, qui sont restés pendant des années au Mirage, justement.
Oui, qui avaient des tigres et des lions.
Des tigres blancs qui, malheureusement, ont mangé Roy, mais bon, il va bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est devenu vraiment, et ils tendent de plus en plus vers ça d'ailleurs, pas que la ville du jeu, mais vraiment la ville du divertissement à l'état pur. C'est qu'il y a les plus grands restaurants du monde avec les plus grands chefs du monde, il y a le plus grand spectacle du monde, il y a les plus grandes toiles du monde. On peut aller manger avec 8 tableaux de Picasso à côté de soi pendant qu'on mange au Bellagio, par exemple, des vrais tableaux. Il y a vraiment des expos incroyables, comme le Titanic, où ils ont reconstruit des bouts de Titanic à l'intérieur. Ils essayent vraiment...
L'exposition Bodies aussi, qui est assez spectaculaire.
Qui est interdite partout dans le monde,
qui est
sauf
en
Las Vegas.
France, oui, notamment.
Mais même partout dans le monde, pardon, maintenant, sauf dans la ville. Et c'est vrai que ça vient de plus en plus une ville du divertissement.
Il faut dire en un mot pourquoi elle est interdite, cette exposition Bodies, du reste.
C'est des vrais corps.
Oui, c'est ça.
Oui. Oui, je crois qu'on ne sait pas exactement pourquoi les gens sont morts. Je crois qu'ils sont tous chinois, d'ailleurs.
Ah, ça, je sais pas, mais en tout cas, ce sont des vrais corps avec un procédé, traités avec un procédé unique.
Mais c'est néanmoins très pédagogique.
C'est très pédagogique.
La vie de France.
C'est un peu effrayant, mais c'est pédagogique. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment devenu maintenant.
Donc, des expositions, des grands restaurants. Et puis alors, tous ces hôtels thématiques. On se met peu à peu à thématiser les hôtels, en fait. Ça, c'est le tournant des années 90, en fait. Alors, on a un hôtel qui va reconstituer Venise, un autre où on a l'impression d'être à Paris. Enfin, toute proportion.
Ça commence effectivement en 90 avec l'Excalibur. Inspiré d'ailleurs de Carcassonne, sur le thème médiéval, où on y installe également un spectacle
médiéval, de chevaliers. Oui,
de chevaliers.
On peut toujours aller voir le soir.
Ce sont d'ailleurs des Français qui ont monté le spectacle à son origine en 1990.
Il y a encore pas mal de Français qui bossent sur le show.
Ces spectacles sont partout. C'est-à-dire qu'on se promène sur le trottoir, d'un seul coup on voit des immeubles qui bougent. Non, ce ne sont pas des immeubles. En fait, ce sont de grands bateaux sur lesquels il y a des corsaires et qui sont en train de se livrer à un abordage. Tout est toujours sur le mode du show. Est-ce qu'il y a des vrais habitants à Las Vegas, Alex Goudon? On a l'impression qu'il n'y a que des visiteurs et des touristes.
Il y en a beaucoup maintenant. Au total, on est 2 millions. Enfin, il y a 2 millions d'habitants au total dans la ville, avec en permanence 1 million de touristes. Donc, ça fait une ville de 3 millions de personnes. Je crois qu'ils ont battu en 2012 le record de touristes historique, qui datait d'avant la crise, qui datait de 2007.
Environ.
Donc là, maintenant, c'est vraiment.
Visiteurs par an.
Voilà, c'est vraiment reparti comme en 40, enfin, comme avant la crise, en tout cas. Mais justement, grâce à ce virage, grâce à ces attractions dans la rue qui sont gratuites, grâce aux spectacles où les gens ne peuvent ne les voir que là, quoi. Aller voir un spectacle du Cirque du Soleil en tournée, ça n'a rien à voir avec aller voir un spectacle du Cirque du Soleil à Las Vegas, où la salle a été faite pendant 2 ans de travaux incroyables, on voit des machineries fabuleuses. Donc c'est vraiment pour ça que c'est redevenu une ville de tourisme.
On dit que c'est Céline Dion qui est tous les soirs sur la scène du César Palace, elle, a été recrutée en quelque sorte pour faire revenir les gens qui avaient eu tendance au moment de la crise à s'en aller un peu.
C'est vrai que quand elle a donné le signal qu'elle revenait, en tout cas, puisqu'elle était là avant la crise, quand elle signale qu'elle revenait et qu'en plus ça se prolonge, puisqu'elle a encore re-signé pour 5 ans, enfin c'est redevenu une success story incroyable avec une salle complète tous les jours, enfin tous les jours, elle joue 90 fois par an, mais voilà, mais à chaque fois complète, ça a redonné le signal. Et c'est vrai, mais ça correspond aussi un petit peu quand même à la fin de la crise terrible de 2008, mais c'est vrai que du moment où elle est revenue, la ville est repartie, les constructions repartent partout, là ils sont en train de construire les deux plus grandes grandes roues du monde, c'est un peu bizarre comme idée, mais...
Oui, c'est la course à la grande roue en ce moment.
C'est la course à la grande roue. Mais c'est vrai que ça a contribué un petit peu quand même au retour des gens aussi, puisque les gens viennent la voir.
Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, et ce qui ferait presque l'objet d'une autre émission à part entière, c'est qu'au-delà de ces attractions tout à fait publiques, au-delà de ces spectacles, de cette atmosphère assez bon enfant, il y a aussi dans les étages supérieurs des grands hôtels, et les hôtels sont de plus en plus hauts du reste et de plus en plus grands, il y a une clientèle qui est une clientèle ultra fortunée, qui vient du monde entier, pour se livrer à toutes sortes de plaisirs, disons. On dit, alors est-ce que c'est vrai? On dit que tous les désirs sont exaucés.
C'est les baleines dont parlait Sébastien tout à l'heure. C'est vrai que sur 28 des plus grands hôtels du monde, il y en a 20 à Las Vegas, avec des suites qui défient l'imagination. Et c'est vrai, je crois, Sébastien, qu'effectivement, on répond un petit peu à tous leurs désirs. S'ils veulent venir et avoir des trucs farfelus comme un avion qui ressemble à je ne sais pas qui,
tout
ils peuvent l'avoir.
Tout est possible, en effet. Oui.
C'est une question de prix, c'est tout.
Exactement. Il y a d'ailleurs deux autres sujets dont on n'a pas encore parlé et qui sont des sujets très importants à Las Vegas. D'une part, vous avez parmi les plus grands parcs des expositions du monde, probablement.
Oui, il y a beaucoup de congrès, hein, voilà, dire, notamment le congrès international d'électronique tous les ans.
CES, exactement, en janvier, suivi du plus grand salon professionnel des armes à feu, le fameux SHOT Show. Des salons professionnels comme ça, très très importants, liés bien sûr à la capacité hôtelière exceptionnelle de la ville. Plus de 120 000 chambres sur Las Vegas, d'une part. Et puis, deuxième sujet auquel on va certainement venir également, c'est aussi la possibilité de s'y marier de façon
plus simple. Qu'en est-il exactement? C'est-à-dire que vous voulez vous marier, vous téléphonez la veille, ça se passe comment?
La veille.
Une heure avant. Hein.
Voilà. En ce qui me concerne, je m'y suis marié.
Ah oui.
Et je ne m'y suis pas pris la veille du tout.
Hein. Ah non, alors c'est-à-dire vous êtes allé comme ça?
Oui, oui. Alors, il y a un document officiel à remplir auprès de l'administration du comté de Clark, dont dépend la ville de Las Vegas, moyennant quelques dizaines de dollars, vous vous mariez dans la demi-heure qui suit.
Et c'est un mariage reconnu?
Alors c'est un mariage qui peut être reconnu, en ce qui me concerne c'est mon cas, dès lors que vous faites les démarches auprès des autorités françaises et notamment du consulat de France à Los Angeles, ou alors ça peut aussi ne pas être reconnu par les autorités françaises si vous le souhaitez.
Et maintenant il y a même des wedding drives où on passe comme quand
on se marie sans descendre de sa voiture.
Exactement, on passe en voiture et on se marie dans la voiture.
Puisqu'on est en voiture, profitons-en, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il faut quand même dire que, évidemment, cette ville qui a poussé en plein désert, elle se trouve à proximité d'un certain nombre des sites les plus extraordinaires des États-Unis. Évidemment, le Grand Canyon du Colorado qui est à proximité, c'est combien?
Deux heures de route en voiture. On passe par le fameux barrage, d'ailleurs, Hoover ou Boulder, suivant le nom qu'on lui donne, mais on passe par ce fameux barrage en y allant. C'est à deux heures de route. Il y a la Vallée de la Mort qui est aussi à deux heures de route. Il y a Red Rock qui, pour le coup, est à 20 minutes. Il y a le ski, si on veut y aller, qui a une demi-heure. Parce qu'on peut aussi aller skier en haut du Mont Charleston, c'est à une demi-heure. En termes de nature, il y a le lac, si on veut aller faire du jet ski, qui est à 20 minutes, c'est pareil. Enfin, en termes de nature, c'est vraiment un endroit fabuleux. Quoi. Je pense que le Grand Canyon, je crois que j'ai dû y aller 10 fois sur la dernière année. À chaque fois, je me dis waouh.
Et nous avons visité ensemble ces grandes réserves extraordinaires, les séquoias géants, la Kings Valley, et puis bien sûr le parc du Yosemite, qui est absolument phénoménal. Ce sont quelques-unes des plus grandes attractions naturelles des États-Unis, qui sont là aux portes quasiment de Las Vegas. Ça compte aussi sans doute dans l'attrait touristique de la ville, en tout cas pour les étrangers.
Comme disait Alex, il n'y a effectivement pas besoin de rouler beaucoup. Vous prenez votre voiture une demi-heure, 45 minutes, et vous êtes au milieu de parcs naturels exceptionnels dans ce désert de Mojave, qui quand même est parmi les plus chauds d'Amérique du Nord. Vous vous retrouvez à Red Rock dans des formations de grès rouge absolument invraisemblables, qui sont d'ailleurs le deuxième site d'escalade aux États-Unis. Vous avez une autre formation qui s'appelle Valley of Fire, et qui, comme son nom l'indique, et très d'un rouge absolu à une heure de voiture du centre-ville.
Oui, d'un rouge très vif, très étonnant en fait. Merci beaucoup Sébastien Frémont. Alors je ne vais pas citer tous vos ouvrages. Le dernier, ça s'appelle, je vais le dire en français, NYC 11 septembre, entre vitalité et devoir de mémoire. Donc c'est aux éditions du Mai. Et puis bien sûr ce Las Vegas, la pépite du désert, également aux éditions du Mai, qui était paru en 2009 et qu'on peut encore trouver. Alors vous avez traduit un certain nombre d'ouvrages dans la collection Pour les Nuls, hein, chez First. En ce qui vous concerne, François Montmirel, le casino pour les nuls, le poker Texas Hold'em. Alors ça, c'est une forme très particulière de poker, un peu inquiétante pour tout dire.
C'est le poker actuel.
C'est le poker actuel, on va dire.
Je vais peut-être les prendre, les bouquins, pour m'entraîner.
Je sais qu'ils vont... Vous allez en faire le meilleur usage, Alex. Alors évidemment, on vous retrouve très bientôt à la télévision.
Jeudi soir. 50 sur M6 et Hôtel Transylvania au cinéma aussi.
Hôtel Transylvania, vous faites la voix du personnage principal. Merci beaucoup d'être venus tous les trois nous faire partager votre passion de grands enfants pour cette ville assez extraordinaire et qui, à mon avis, n'a pas fini de se transformer. Elle nous surprendra encore dans 20 ans.